Nous avons rappelé les dimensions, la largeur de l'amour de Dieu pour nous, son intensité également. Nous voulons que ces réalités nous transforment également. Et c'est dans ce sens que nous continuons à nous mettre à l'écoute de la parole du Christ dans le Sermon sur la montagne. Nous sommes arrivés dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, au verset 43. Le Seigneur avait invité ses disciples à savoir trouver la liberté pour le bien, même en face de réalité, de contraintes, même en face de réalité d'hostilité. Et il continue sur cette ligne, Matthieu 5, verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous disent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, mais que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Que faites-vous d'extraordinaire? Je me souviens que dans mes jeunes années, j'avais donné un message tout axé sur cette question à partir de ce texte. Avec la fougue de mes 30 ans, j'avais convoqué pour illustrer cette interpellation le livre des records et ses actions extraordinaires dans toutes sortes de domaines. J'étais bien porté par le sujet et régulièrement je relançais la question. Que faites-vous d'extraordinaire? Question de Jésus quand même. À la fin du culte, j'étais plutôt heureux d'avoir réussi à communiquer mon enthousiasme pour le dépassement. Et voilà qu'un des jeunes adultes de l'église, un jeune de mon âge, quelqu'un de très posé, souvent un peu décalé, mais toujours intéressant, m'a fait un commentaire auquel je pense toujours. Maintenant, chaque fois que je lis ce texte, on parle d'extraordinaire, me dit-il, on rêve d'extraordinaire. Moi, je trouve que bien faire l'ordinaire, c'est déjà beaucoup. C'est un défi tout aussi grand et peut-être même plus important. Pas facile, la chute, pour le jeune prédicateur enflammé que j'étais. Heureusement, j'avais mis quand même quelques nuances dans mon propos, mais le rappel était juste. L'extraordinaire n'est pas une vertu en soi. Chercher l'extraordinaire peut même être une fuite par rapport à l'ordinaire et à ses responsabilités. Et pourtant, c'est Jésus qui nous pose la question de l'extraordinaire, du plus à accomplir. Que faites-vous d'extraordinaire? Il nous le demande quand même. C'est une question que ceux qui veulent suivre Jésus doivent quand même recevoir. Qu'est-ce qui nous vaut cette question? Tout commence, comme souvent déjà dans le Sermon sur la montagne, par la reprise d'une parole de la loi de Moïse, plus ou moins bien citée, plus ou moins bien reprise. Cette parole, c'est « Tu aimeras ton prochain ». Le second commandement en termes d'importance après celui de l'amour pour Dieu. Un commandement essentiel pour Jésus, au point qu'il affirme que ce commandement de l'amour du prochain est semblable au premier, qui est celui de l'amour pour Dieu. Mais ce commandement tel qu'on le citait ou tel qu'on le recadrait mentalement était quelque peu amputé. On avait d'abord laissé de côté, en le citant, l'indication de la mesure donnée par Dieu. Tu aimeras ton prochain, non pas un peu, moyennement, raisonnablement, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, disait le texte de la loi. Tu lui donneras la même valeur qu'à toi dans ton amour pour lui. Ce qui veut dire très concrètement qu'il aura souvent la priorité. Et se contenter de « tu aimeras ton prochain » plutôt que « tu aimeras ton prochain comme toi-même » permettait déjà un certain nombre de mesures, de restrictions, de mesurettes, de bémols. Et puis, deuxième limite, en citant le commandement « tu aimeras ton prochain » simplement comme cela, cela permettait aussi de discuter sur « mais qui est mon prochain ?» et peut-être « qui ne l'est pas ?» Alors, on regardait dans le contexte plus précis de Lévitique 19, qui parle de cet amour pour le prochain, et on voit que, pas trop loin de l'amour pour le prochain, il est question des enfants de ton peuple. Alors du coup, bien sûr, oui, je vais aimer mon prochain, celui qui est de mon peuple, comme le dit le contexte. Et celui qui n'est pas de mon peuple, ben peut-être qu'il n'est pas tellement mon prochain, ou qu'il n'est pas mon prochain de la même manière. Et du coup, je ne suis pas trop tenu de l'aimer, celui-là. De même, pour celui qui n'est pas de ma race, ni de ma religion, ou qui est mon ennemi. Et voilà comment ce commandement sur l'amour du prochain devient quelque chose qui ressemble à nos contrats d'assurance, qui présentent des clauses de garantie, oui bien sûr, mais avec chaque fois toute une kyrielle d'exclusion écrite en tout petit. Prochain s'écrit pareil, avec toute sorte d'exception. Pas lui, pas elle, pas cette catégorie, pas cette autre, en tout petit. À part cela, je les aime tous, mes prochains. Prochain, je vous aime. Et Jésus, qui n'est pas dupe, Jésus traduit cette manière de comprendre le commandement en « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Je pense que c'est Jésus qui l'ajoute pour bien faire comprendre aux gens leur petite clause d'exception qu'ils n'arrêtaient pas de mettre en disant « Voilà à quoi ça revient, votre commandement d'aimer le prochain avec tous ses bémols. » Pourtant, « prochain » est un mot ouvert. C'est un mot plus ouvert que « frère », par exemple, qui est un peu plus restrictif. C'est plus ouvert qu'ami, et cette ouverture est un défi. Cette ouverture, elle peut obliger à sortir de nos réactions ordinaires et nous demander un petit peu d'extraordinaire. Alors, c'est vrai, c'est plus simple de dire que certains sont un peu moins nos prochains que d'autres, tout comme on voudrait que certains soient un peu moins français que d'autres. Rien de nouveau sous le soleil, vraiment rien de nouveau sous le soleil. Pourtant, la loi de Moïse demandait de viser haut en matière de considération du prochain. Dans le même chapitre 19 de Lévitique, il est dit « Vous aimerez l'étranger qui réside chez vous comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel votre Dieu. » C'est dans le même chapitre où il est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, il est dit « Vous aimerez l'étranger comme vous-même. » On voit bien le lien. Et même à l'égard de l'ennemi, la loi de Moïse avait des directives très claires. Dans Exode, cette fois-ci, au chapitre 23, le texte de la loi dit « Si jamais tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. » Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Et tout cela nous pousse un petit peu hors de nos zones de confort, hors des zones de nos réactions ordinaires. Mais il est si facile de ne pas prendre en compte ces dépassements auxquels nous sommes conviés et de rester avec les astérisques de « lui n'est pas concerné » ou « dans son cas, ce n'est pas vraiment trop grave ». Alors comment sortir de ces facilités qui nous fait un peu réduire le champ de ce que Dieu nous demande ? Comment viser un peu plus haut que ces aplatissements si faciles auxquels on a très facilement recours, et même avec des bons arguments de lecture du texte biblique et je ne sais trop quoi. Jésus nous parle de deux lieux où un changement peut se passer en nous. Et ce lieu, c'est la prière, et c'est la méditation sur l'action de notre Père Céleste. C'est intéressant de voir que ces lieux ne sont pas, cette fois-ci, les lieux de la confrontation directe avec le prochain, comme celui qui, par exemple, nous frappe sur la joue, ou celui qui nous traîne en justice, ou celui qui nous impose une obligation, ce que Jésus avait dit auparavant. Jésus, ici, maintenant, est beaucoup plus distancié dans la façon dont il nous invite à regarder les choses. Et ça nous rappelle que ce n'est pas toujours dans la confrontation frontale que se règlent les choses. Certaines approches latérales ont aussi de la valeur. Déjà, je trouve que la loi de Moïse avait cette sagesse de proposer des approches latérales face à l'ennemi, par exemple. On passait par l'âne de l'ennemi pour lui dire quelque chose de positif. C'est plus facile de ramener l'âne de l'ennemi plutôt que d'aller direct lui serrer la main. C'est plus facile d'avoir ce langage un peu indirect. L'âne, il vous a rien fait, au moins. Vous pouvez le ramener et puis faire un petit bonjour de loin à votre ennemi. Langage indirect, mais langage qui dit quelque chose et langage qui engage dans une démarche. Et c'est important pour celui qui agit comme pour celui qui reçoit. Et je pense que c'est bon pour nous que nous réfléchissions parfois à ces langages plus indirects que toujours frontaux, langages indirects qui ont aussi leur valeur. Et Jésus donc nous indique un premier lieu, un premier chemin vers notre ennemi, en mode indirect cette fois-ci, et je dirais même en mode intime. Et ce chemin, c'est de le faire entrer dans nos prières. De le faire entrer dans vos prières. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et on pourrait dire pour ceux qui vous font du mal ou pour ceux qui vous énervent, je ne sais trop quoi. La recette est simple. Tu as du mal avec quelqu'un, prie pour lui. Prie pour elle. Quand on a du mal avec quelqu'un, on y pense beaucoup. Et ça peut devenir parfois obsessionnel. On ressasse les mêmes choses. On repasse les mêmes films. Tous les griefs, tous les problèmes reviennent en avalanche permanente. Et quoi qu'on fasse, c'est là. On pense, ça revient, ça tourne encore. Maintenant, penser, c'est une chose. Prier, c'est autre chose. Penser à une chose et prier pour cette chose, ce n'est pas pareil, même si c'est proche. Quand on pense, on est juste avec son propre regard, avec ses propres affects. Quand on prie, on doit s'ajuster aussi au regard de Dieu. On doit avoir des paroles qu'on peut assumer devant Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, prie. Pour ton ennemi. Prie pour celui avec qui tu as du mal. Alors quand on prie pour celui avec qui on a du mal, il peut arriver que l'avalanche gagne jusqu'à nos prières. Voyez les psaumes qu'on appelle les psaumes d'imprécation. « Oh Dieu, fais mourir le méchant. N'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi ? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis. » Avalanche force 4, dans la prière d'un homme de Dieu, David. Avalanche force 4, oui, mais c'est une prière. Et on est devant Dieu en disant ça. Et si l'on est sincèrement devant Dieu en disant cela, une fois qu'on a dit ça, on revient sur soi-même. On réfléchit à soi-même. C'est ce que fait David. Après cette envolée. Je les hais d'une parfaite haine, disait-il, et il continue. Mais sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, avec tout ce que je viens de te dire là. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. L'avalanche dans la prière, ça existe. Mais quand on vient devant Dieu avec tout ce qu'on porte en soi, avec tout ce qu'on dit peut-être, à un moment donné, on doit se regarder soi-même un peu et se regarder avec le regard de Dieu. Et cela, ça calme l'avalanche. Parce qu'on commence à prier pour nous-mêmes, comme le fait David. Sonde-moi, éprouve-moi, pour que Dieu purifie notre regard. Pour que Dieu nous aide à être juste dans ce regard. Pour qu'il nous aide peut-être à voir l'autre d'une manière équitable. Et peut-être même de le voir un peu comme Dieu le voit. Ça fait partie des choses qui se passent quand on est devant Dieu. Et là, bien vite, on peut commencer aussi à prier pour l'autre. À demander quelque chose pour lui, pour elle. Alors la chose la plus facile à demander, c'est « change-le, change-la ». C'est la chose la plus facile, parce que ça revient à dire « c'est lui, c'est elle qui pose problème ». N'empêche, même prier sincèrement « change-le, change-la », si c'est quelque chose qu'on commence à prier sincèrement, on est en train de prier pour cette personne. De prier pour cette personne, plutôt que de simplement ressasser tout ce qui ne va pas. On est en train de demander quelque chose, et de demander quelque chose de bien pour cette personne. Et si tu continues dans cette ligne, même en commençant en disant « change-le, change-la », si tu continues sincèrement dans cette ligne, tu vas te surprendre à demander d'autres choses encore, et plus encore. Et tu ne seras plus dans un simple rapport d'hostilité. Et tu ne pourras plus penser simplement à lui comme à ton ennemi. Les lignes intérieures vont bouger. Jésus nous donne ici une aide magnifique à employer à chaque fois que nous avons un problème avec quelqu'un. Le soir, dans votre lit, au lieu de ressasser en boucle les mêmes choses, priez pour cette personne. Priez pour cette personne. Parlez d'elle à Dieu. Ne le faites pas juste une fois, mais chaque fois, dès que le film revient. Priez sincèrement pour cette personne. Et vous allez voir que cela va changer. Vous allez changer. Vos lignes vont bouger. Là, dans le secret, dans l'intimité de votre cœur, des choses vont s'ouvrir que vous n'imaginiez même pas. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Une précision, ça ne veut pas dire commencez par aimer vos ennemis et ensuite, quand vous serez bien sûr de les aimer, priez pour eux pour que Dieu les bénisse. C'est plutôt priez pour eux quand vous êtes au cœur de la tempête contre eux. Et c'est comme ça que vous allez avancer sur les chemins de l'amour, sur les chemins où l'amour vous pourra vous conduire un petit peu plus loin et où il pourra pousser là où, autrement, il n'y aurait que des épines ou que des rancœurs. Est-ce que Jésus a pratiqué le premier? Voyez-le à la croix. Père, pardonne-leur. Car ils ne savent ce qu'ils font. Ils prient pour eux. Et vous savez, pour pouvoir prier cela dans ce genre de conditions, ça ne s'improvise pas. C'est probablement parce que Jésus avait fait déjà ce genre de choses des dizaines et des dizaines de fois. Par rapport à tous ceux qui le critiquaient, par rapport à tous ceux qui étaient de mauvaise foi par rapport à lui, par rapport à tous ceux qui cherchaient à le prendre en défaut. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus a fait quand il était confronté à ça? Jésus nous livre, me semble-t-il, à la croix, sa façon d'affronter ordinairement les situations d'hostilité, les personnes avec lesquelles il était en difficulté, non pas à cause de ses propres sentiments mauvais, mais à cause de leurs sentiments à son égard. Et il nous donne là une clé. Priez donc pour ceux qui vous persécutent et toutes les autres choses qui sont difficiles. Mais quand nous prions, nous nous adressons à notre Père qui est aux cieux. C'est ce que Jésus nous a appris. C'est un privilège, c'est une liberté. Nous nous adressons à notre Père qui est dans les cieux et nous savons qu'il nous connaît et nous savons qu'il nous comprend et c'est bon de pouvoir nous approcher de lui ainsi. Mais prier notre Père qui est dans les cieux, ajoute Jésus ici, cela doit nous conduire un petit peu plus loin que cette vision un petit peu auto-centrée du « je suis aimé, je suis compris ». Cela doit nous amener à vouloir aussi être des fils et des filles de notre Père, nous dit Jésus. Sous-entendu, des enfants qui reflètent un peu quelque chose de ce qu'est notre Père. De ces enfants qui ont quand même un petit peu un air de famille. Or, qu'est-ce qui caractérise notre Père céleste? C'est, nous dit Jésus, le fait que lui, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il y a là une méditation sur qui est notre Père que Jésus nous invite à faire pour nous aider aussi à essayer de manifester un peu quelque chose de cet air de famille qu'il aimerait tant voir chez nous. Le Seigneur fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. C'est une affirmation qui semble très simple. Mais il faut méditer sur ce qu'elle signifie. Elle dit quelque chose d'inouï de la vie de Dieu. Il faut bien nous en rendre compte. C'est pas juste, quand il pleut, ça tombe sur tout le monde. C'est pas tout à fait ça. Jésus va un peu plus loin. Jésus sait, notre Père sait faire la différence entre ce que sont les méchants et ce que sont les bons. Il sait profondément la différence entre les justes et les injustes. Il voit tout le bien que représente l'attitude de ceux qui sont bons, il voit tout le mal que représente l'attitude de ceux qui sont mauvais. Ça ne lui échappe pas. Il n'y a aucune relativisation morale en lui. Notre Père aime le bien. Il a le mal en horreur totale. Il vise aussi le bien pour ses créatures. Et le mal, l'injustice font partie de ces choses qui n'arrêtent pas de contrecarrer ses projets, qui n'arrêtent pas d'être le bâton dans les roues de ce qui vient gâcher tout ce qu'il a envie de faire, tout ce qu'il vise pour l'humanité. Et quand il voit les bons et les méchants, c'est tout ça qu'il voit dans toute sa vérité. Et parmi les méchants, parmi les injustes, il y en a un bon nombre qui le sont aussi par rejet de Dieu. De lui-même. Parce qu'ils veulent vivre sans Dieu, c'est pour ça qu'ils se portent de cette façon-là. Donc il y a aussi dans le fait de voir les bons et les méchants, pour Dieu, notre Père, une sorte de rejet personnel qui lui est signifié. Et c'est ce que Dieu, notre Père, vit au quotidien et voit au quotidien. Et cela se double d'ingratitude. Pas un merci pour la vie, pas un merci pour les bontés manifestées. Et même on se sert de ses bontés pour mieux oublier Dieu ou pour mieux vivre sa vie sans lui. Voilà ce que Dieu voit probablement, enfin j'essaie de vous d'imaginer avec vous, ce que Dieu peut voir quand il voit les justes et les injustes, les bons et les méchants. Le Seigneur aurait aussi tout pouvoir de faire sentir la différence, de bénir les uns et de ne pas laisser tranquilles les autres pour leur signifier sa désapprobation la plus totale. Ce serait facile pour lui de trouver les façons de montrer à ceux qui usent de tellement d'ingratitude envers lui de leur refuser ses bienfaits, par exemple, de leur montrer de leur faire passer le message hein, qu'ils sont hors de sa bonté, de leur faire passer le message qu'ils se sont mis eux-mêmes hors de sa générosité. Dieu pourrait le faire facilement. Comme autrefois, il avait distingué le peuple d'Israël et les Égyptiens lors de certaines des 10 plaies d'Égypte. Il pourrait le faire, il pourrait multiplier les grains de sable qui empêchent les choses de tourner en rond dans la vie quotidienne de ceux qui s'éloignent de lui, de ceux qui sont injustes, etc. Mais Dieu a fait le choix, et Dieu fait chaque jour le choix d'un autre langage. Celui de la bonté renouvelée, celui de la vie donnée, celui de l'amour des bons comme des méchants, du souci quotidien des bons comme des méchants, des bienfaits sur ceux qui sont justes et sur ceux qui sont injustes. En même que souvent ces bontés reçues servent à mieux oublier le Seigneur, lui qui donne, lui qui fait du bien, lui qui donne les ressources pour la joie. Un aspect de la vie de notre Père Céleste, c'est ça. Et c'est un peu son quotidien, il faut bien le dire. Heureusement qu'il a d'autres ressources. Heureusement, il met toute sa joie dans le don plutôt que dans sa réception. Mais il y a certainement cette ombre permanente de l'ingratitude et du rejet. Et malgré cela, nous dit le Seigneur Jésus, qui connaît vraiment bien son Père, malgré cela, votre Père céleste fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait le choix de la générosité encore et encore. Il remet à plus tard le choix de la justice. Comme le dit l'apôtre Paul, la bonté de Dieu devrait te pousser à la repentance. Mais Dieu veut donner ce langage de la bonté pour pousser à s'ouvrir à lui, pour pousser à la repentance. Au vu de ses riches, de ses richesses, de générosité, de ses trésors de patience. Et peut-être que pour l'un ou l'autre d'entre nous ce matin, c'est l'appel, hein, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Nous devons l'entendre, cet appel. Si nous mesurons, regardons un petit peu tout ce que Dieu fait pour nous jour après jour et que peut-être nous n'avons pas donné sa place, sa mesure à notre Dieu, sa bonté nous pousse à la repentance, de manière douce, mais d'une vraie manière quand même. Et de ces trésors de bonté, de ces trésors de patience, nous vivons chacun. Tout homme, toute femme dans ce monde qui reçoit la vie, le mouvement, l'être, la joie de la vie. Nous aussi en tant que chrétiens, par le pardon qui nous est donné, il nous a été rappelé ce matin combien en Jésus-Christ son amour a été vraiment manifesté pour des impies, pour ceux qui étaient encore ennemis. Nous devons donc veiller à la gratitude, à la reconnaissance. C'est une attitude fondamentale envers Dieu. Mais en même temps, en méditant sur la générosité de Dieu, ça devient difficile de mettre des limites du style « Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Moi, j'aime ceux, je salue mes frères. » Sous-entendu, les autres, je ne suis pas trop tenu de les considérer. Notre Père Céleste, à qui nous sommes appelés à ressembler, à avoir un air de famille, fait un petit peu autre chose que cela. Que d'aimer ceux qu'il aime, que de faire un petit bonjour de son ciel à ceux qui sont sympas avec lui. Tout le monde sait faire cela. Tout le monde sait être bien avec ceux qui ont les mêmes goûts que nous, avec les mêmes manières de voir que nous. Nous savons tous être solidaires de ceux qui nous sont semblables, de ceux qui nous sont proches, de ceux qui nous sont aimants. Nous savons tous partager bien des choses avec ceux qui ont la même culture que nous, la même foi que nous, avoir de la bonté pour ceux qui nous ressemblent, de la gentillesse pour ceux qui nous conviennent. Tout le monde sait faire cela. Pas besoin d'être fils de notre Père pour faire cela. Jésus nous dit, les péagers, les païens, ils savent le faire aussi. Mais vous, vous êtes fils de votre Père céleste. Quel air de famille ! Quel air de famille allez-vous manifester ? Et c'est ici que nous recevons sa question. Si vous saluez seulement vos frères, seulement ceux qui vous aiment, seulement ceux qui vous ressemblent, que faites-vous d'extraordinaire ? Il nous faut viser plus haut. Il faut qu'il y ait un plus. Que faites-vous d'extraordinaire si vous faites juste ces choses normales? Mais quel est-il ce plus que Jésus demande avec sa question? S'agit-il d'une action d'éclat? S'agit-il d'être toujours brillant, toujours magnifique, éblouissant pour que les autres se pâment d'admiration devant nous, devant ce que nous sommes d'extraordinaire? S'agit-il pour nous de vouloir sortir du lot à tout prix? C'est un peu ce à quoi on rêve tous quand on se pense beau et bien et tout ça. Comme le chante si justement Cabrel dans sa chanson des gens formidables. Et on serait tous, dit-il, des gens formidables, des êtres parfaits, des chanteurs charmants, charitables, humbles et discrets, contre toutes les injustices et de tous les combats. Mais on est normalement égoïste, et c'est chacun chez soi. C'est une belle chanson, celle-là. Mais qui dit le contraste entre tous ces rêves d'être les plus admirables, les plus magnifiques, et puis la réalité, quoi. Mais cela, ce que Jésus vise pour nous, de ces gens admirables, parfaits, devant lesquels tous s'admirent. Ce n'est pas cela que vise Jésus. Souvenez-vous du début du sermon sur la montagne. Heureux les humbles de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les doux. Heureux ceux qui procurent la paix. On est là, non pas dans l'extraordinaire et le brillant d'une vie, mais dans l'ordinaire d'une vie. L'extraordinaire dont parle Jésus, ce n'est pas l'action d'éclat. Ce n'est pas se jeter du temple pour éblouir les foules. Ce n'est pas figurer quelque part dans le livre des records, comme ce pasteur qui, paraît-il, a prêché 120 ans d'affilée. Je pense que c'est l'auditoire hein, qui mérite qui mériterait d'être cité. L'extraordinaire pour Jésus, ce n'est pas ce qui nous distingue du païen pour être meilleur que lui. Ça n'a rien à voir avec la pensée de Jésus. C'est pas, il ne s'agit pas d'être meilleur que le païen pour être, de se distinguer pour être meilleur que lui. Mais l'extraordinaire, c'est ce qui nous distingue de ce que nous serions, nous, si comme le péager ou comme le païen, nous ne connaissions pas Dieu. Autrement dit, la question, c'est la différence que fait dans notre vie, à nous, le fait d'appartenir à Dieu. Est-ce qu'être fils ou fille de ton Père céleste, ça te change un peu? Ou est-ce que chrétien ou pas chrétien, c'est finalement pareil? C'est ça la vraie question. L'extraordinaire sur lequel Jésus nous questionne, c'est le plus qu'apporte concrètement dans notre vie à nous le fait que nous appartenons au Seigneur. les dépassements auxquels nous sommes conduits par rapport à ce que nous ferions si nous ne connaissions pas Dieu. C'est ce souci-là qu'a Jésus. Et c'est pour ça qu'il nous situe par rapport à notre Père céleste. Y a-t-il des fruits de la vie de Dieu dans ta vie à toi ? Ou est-ce que dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons finalement, nous nous comportons honorablement, peut-être, oui, mais au fond, comme si rien ne s'était passé, comme si être à Dieu ou pas être à Dieu, ne fait pas de différence. Jésus a vraiment à cœur que le fait de connaître Dieu comme notre Père céleste nous change, que cela nous amène à des plus que nous n'accomplissons que parce que nous appartenons à Dieu. Et c'est ça l'extraordinaire, me semble-t-il, qui vise pour nous. Mais en disant cela, Jésus nous dit aussi qu'il apprécie ce fruit qui nous transforme, qu'il apprécie de voir dans les siens ce qui nous pousse un peu plus loin, ce qui nous fait faire un pas de plus par rapport à ce qui serait simplement à la portée de chacun, avec ou sans Dieu. Cet extraordinaire-là, il va s'inscrire, oui, dans notre ordinaire. Il est même appelé à le façonner, cet ordinaire, à en devenir la force, la croissance, le renouvellement, le progrès, la constance. Et l'Esprit de Dieu veut faire cette œuvre en nous, en façonnant et en refaçonnant constamment notre vie, notre réaction, nos réactions, nos attitudes. Un extraordinaire qui s'inscrit donc dans notre ordinaire, mais qui doit rester au-dessus de notre ordinaire quand même, au-dessus comme une question que nous gardons, au-dessus comme un désir que nous cultivons, être et manifester que nous sommes les enfants de notre Père céleste. Au-dessus, pour nous aider à viser haut. C'est le titre que j'ai donné à la prédication, viser haut. Mais viser haut, c'est viser haut en regardant à notre Père céleste. C'est ça ce que moi j'ai envie de dire dans cette expression-là. Pas viser haut pour briller, pour scintiller, mais viser haut parce que nous regardons à notre Père céleste, que nous l'aimons, parce que nous regardons également à son Fils qui est venu manifester dans une vie authentiquement humaine ce qu'est vraiment la beauté du Père et la beauté de ce qu'il veut pour nous. De viser haut en pensant aussi à son Esprit qui est là, à l'œuvre en nous, et qui veut former, façonner Christ en chacun de nous. Alors visons chacun cet extraordinaire-là. Amen.